Vous écoutez, on lit pour vous.
Le tribunal administratif du logement est-il moins équitable pour les locataires? Un texte de Jasmine Legendre paru le 10 juillet 2025 dans Le Devoir. Le principe selon lequel tous sont égaux devant la loi fait parfois sourciller les locataires et les défenseurs de leurs droits. Certains considèrent que le tribunal administratif du logement, TAL, peut, dans certains cas, être un organe judiciaire qui place les propriétaires dans une position de supériorité. En 2023-2024, plus de 91 000 demandes ont été déposées au TAL. De ce nombre, 23 % étaient des demandes de fixation de loyer. La locataire To S. Bui est passée par ce processus judiciaire et en est ressortie avec un vif sentiment d'injustice. En refusant l'augmentation de loyer, elle s'attendait à pouvoir expliquer ce qui motivait son refus. Juste pour avoir au moins une conversation, pour réparer le strict minimum, témoigne-t-elle au Devoir. Rapidement, elle s'est fait expliquer par l'administrateur du TAL que l'audience pour fixation de loyer n'était pas l'endroit pour parler des problèmes liés à leur appartement. La loi fait la distinction claire entre les revendications pour perte de jouissance des locataires qui doivent prendre un canal judiciaire et les demandes de fixation qui sont plutôt traitées comme des demandes administratives. Donc, c'est simplement l'application du règlement sur la fixation des loyers par l'analyse des dépenses et des revenus, explique l'avocat spécialisé dans le droit du logement, Daniel Crespo, Villarreal. Il n'y a pas de place à la discussion lors de ce genre d'exercice, ce qui crée parfois de l'incompréhension. Énormément de locataires vont ressentir un sentiment d'injustice parce qu'ils se disent « Comment le propriétaire peut-il légitimement augmenter le loyer substantiellement s'il ne répond pas à ses obligations de base » ajoute-t-il. Un tribunal asymétrique. Maître Crespo Villarreal constate également qu'avoir son nom dans une décision du TAL peut entraîner des conséquences à long terme sur un locataire, puisque les décisions sont publiques et les futurs locataires ont la possibilité de les consulter. C'est un phénomène qui est exacerbé dans des périodes de crise du logement, affirme-t-il. Lorsque plusieurs locataires postulent pour un même appartement, le propriétaire, en plus d'effectuer une enquête de crédit et de référence, vérifie les antécédents judiciaires. Le porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, CORPIC, Éric Sanssouci, admet que dans un contexte de pénurie de logements, avoir un dossier au TAL enlève des options aux potentiels locataires. Le meilleur conseil, c'est d'en parler de façon transparente aux futurs locataires, soutient celui qui est lui-même propriétaire de plusieurs immeubles. M. Sanssouci croit que le TAL est un organe judiciaire dans lequel il est difficile de naviguer autant pour les propriétaires que les locataires. Il faut se préparer. Ça prend la petite signature, puis le bon formulaire, et il faut savoir quel est le bon. Ça peut être compliqué quand on est laissé à soi-même. On peut faire des erreurs qui pourraient se retourner contre nous, explique-t-il. Daniel Crespo Villarreal considère toutefois que les propriétaires ont davantage de ressources que les locataires, ce qui leur donne un avantage devant le juge. Le rapport de force asymétrique qui existe entre les propriétaires et locataires fait en sorte qu'effectivement, les deux parties ne commencent pas sur un pied d'égalité devant l'arène judiciaire. Si l'un dispose de plus de ressources, nécessairement, il y a plus de marge de manœuvre. « Plus de latitude », fait-il savoir. Le responsable des relations avec les médias du TAL, Denis Miron, assure que le tribunal n'est pas plus favorable aux locataires qu'aux locataires. Comme tous les tribunaux, le TAL fait preuve d'impartialité et ne peut avantager une partie au détriment de l'autre. Le rôle d'un tribunal n'est pas de défendre les parties qui se trouvent devant lui, mais plutôt d'appliquer la loi aux faits qui sont démontrés devant lui, défend-il dans un échange de courriel avec Le Devoir. Il rappelle aussi que la loi prévoit l'assistance du tribunal lorsque c'est nécessaire. cette mission se traduit par des services en personne, par téléphone et en ligne, un site web très détaillé, des webinaires mensuels et de la vulgarisation juridique sur Instagram, ajoute M. Miron. Toutefois, se rendre devant le TAL peut représenter une lourde charge mentale. Après avoir contesté une hausse de loyer et perdu sa cause, Thaus Buis a ouvert un nouveau dossier quelques mois plus tard, cette fois-ci pour s'opposer à une reprise de logement par son propriétaire. Préparer mon dossier m'a pris entre 35 et 40 heures. Je les ai calculées, soutient-elle. Juste pour écrire les 14 pages de notes, rassembler les 55 pages d'annexes. J'ai aussi consulté la jurisprudence pour chercher des cas similaires sans l'aide d'un avocat. Elle s'est rendue au tribunal pour présenter sa cause, mais son locataire a finalement décidé d'annuler la reprise de logement et de plutôt mettre l'immeuble en vente. Thaus Buis redoute maintenant un possible évincement. Un scénario qui, selon la CORPIC, pourrait arriver si on ne trouve pas un point d'équilibre, c'est-à-dire des augmentations qui permettront aux propriétaires de rénover leurs immeubles et d'amortir la charge sur un plus court laps de temps. Ce propriétaire, qui avait l'intention de détenir ses immeubles longtemps, a vu ses taux d'intérêt augmenter et les coûts des rénovations également. Financièrement, ça devient plus difficile, explique Éric Sans Souci. La conciliation comme solution. Selon le porte-parole de la CORPIC, la révision de la grille de calcul du TAL est un pas dans la bonne direction. La ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, établit une période fixe pour l'amortissement des travaux des propriétaires. Ils seront fixés à 5 % du montant des rénovations par année, donc amortis sur 20 ans. Éric Sans Souci a bon espoir que dans un avenir proche, les locataires et les propriétaires auront plus de facilité à se comprendre, du moins pour la fixation de loyers. Il y a différentes façons d'intervenir avant de se rendre au TAL. Avant même d'ouvrir un dossier, on peut s'entendre plus facilement par la médiation et être accompagné. Le tribunal aurait avantage à mettre de l'avant cette possibilité. Ceux qui défendent les droits des locataires, eux, remettent en question la divulgation de tous les dossiers au TAL de manière publique. En principe, un article dans le Code civil prévoit qu'un locataire qui se voit refuser un bail pour le fait d'avoir revendiqué ses droits peut poursuivre ce propriétaire-là et obtenir des dommages punitifs. Le problème, comme dans toute situation de discrimination, c'est que la preuve d'intention est très difficile à obtenir, explique Daniel Crespo-Villarreal. C'était « Le tribunal administratif du logement est-il moins équitable pour les locataires? » Un texte de Jasmine Legendre paru le 10 juillet 2025 dans Le Devoir.
Le Canada s'isole pendant que le monde a soif de lait. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 31 juillet 2025 dans La Presse. Pendant qu'on montre Donald Trump du doigt, c'est notre propre système de gestion de l'offre qui coule notre crédibilité internationale. Si vous pensez que le président américain Donald Trump cherche véritablement à démanteler la gestion de l'offre canadienne pour vendre plus de produits laitiers au Canada, détrompez-vous. La réalité est plus complexe et moins émotionnelle. Des deux côtés de la frontière, les marchés sont déjà saturés. Les États-Unis font face à une surproduction chronique, tandis que le Canada peine à écouler son propre lait, même sous gestion de l'offre. Le Canada n'a pas besoin de plus de lait, et les producteurs américains ne comptent pas vraiment sur nous pour résoudre leur excédent. Pour Trump, la gestion de l'offre est avant tout un levier stratégique, une carte de négociation brandie dans le tumulte des pourparlers commerciaux. Il sait très bien que le Canada est vulnérable, non pas parce que le système est mauvais en soi, mais parce qu'un plan B n'a jamais été envisagé. Ottawa panique à l'idée d'y toucher. L'avenir de la gestion de l'offre ne peut appartenir uniquement aux producteurs et aux politiciens. Il doit aussi être décidé par les consommateurs et les citoyens. Et ce n'est certainement pas à Donald Trump de dicter l'orientation de notre politique agricole. Mais refuser de réformer par principe n'est pas une stratégie. Ce système doit évoluer, non pas pour plaire à Washington, mais pour répondre aux exigences d'une économie agroalimentaire mondiale en pleine transformation. Les prix au détail ne sont qu'un symptôme. Le vrai enjeu, c'est notre capacité à innover, à gagner en compétitivité et à répondre à la demande mondiale de produits laitiers de qualité. Selon la Fédération internationale du lait, d'ici 2030, le monde fera face à une pénurie équivalente à 3 fois la production laitière canadienne actuelle. Le Canada a l'expertise, la salubrité et la réputation nécessaires pour contribuer à combler ce déficit. Encore faut-il se donner les moyens d'y participer. Et cela commence par mieux gérer nos surplus. Plutôt que de les écouler à perte sur les marchés internationaux, ce qui alimente les conflits commerciaux, pourquoi ne pas les valoriser stratégiquement? Le système de gestion de l'offre pourrait être utilisé de manière plus constructive en permettant, par exemple, la création d'une réserve stratégique nationale de poudre de lait écrémé, administrée par la Commission canadienne du lait, à l'image de ce qui se fait déjà pour le beurre. Cette approche offrirait une solution durable aux excédents tout en renforçant la sécurité alimentaire du pays. Car c'est bien là le cœur du problème. Aujourd'hui, le Canada est perçu comme un acteur protectionniste et peu fiable sur la scène internationale. Trop peu de gens osent en parler. Affaire la plus récente. Un grief commun déposé par la Nouvelle-Zélande et des exportateurs américains auprès de la Commission américaine du commerce international. Il dénonce la façon dont le Canada écoule à prix cassé certains sous-produits laitiers, notamment la poudre de lait écrémé, générée par le système de gestion de l'offre. Ce surplus provient de la transformation du lait visant à extraire la matière grasse et est très recherché. Résultat. Un excédent de composants non gras que le marché canadien peine à absorber. Grâce à la classe 4A, ces surplus sont écoulés à des prix artificiellement bas sur les marchés internationaux. Nos partenaires estiment, avec raison, que cette pratique fausse la concurrence. Leurs producteurs n'ont pas accès à de tels mécanismes de déversement à bas prix. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Pensons aussi aux quotas d'importation que le Canada s'est engagé à respecter dans le cadre d'accords commerciaux, mais qu'il contourne allègrement. Nous importons bien moins de produits laitiers qu'annoncés, ce qui alimente encore davantage la frustration de nos partenaires. Alors, peu importe ce que l'on pense de Trump ou de la posture américaine, le Canada ne peut plus prétendre être un partenaire commercial exemplaire. Notre entêtement à préserver un système rigide, sans remise en question, alimente les tensions. Quant au projet de loi C-202, censé protéger la gestion de l'offre contre toute concession future, il relève davantage du théâtre politique que d'une véritable garantie. Ni les producteurs ni les consommateurs ne sont réellement mieux protégés. Qui veut François Blanchet et ses collègues du Bloc québécois veuillent s'en draper est une chose, mais cela ne change rien aux dynamiques du commerce international. Au lieu de blâmer le locataire de la Maison-Blanche, qui comprend peu les subtilités de notre système, le Canada ferait mieux de se regarder dans le miroir. L'heure est venue de réformer un modèle conçu au 20e siècle dans un contexte qui n'existe plus. Maintenir le statu quo, c'est accepter de tirer toute l'économie agroalimentaire vers le bas. On peut et on doit faire mieux. C'était « Le Canada s'isole pendant que le monde a soif de lait », un texte de Sylvain Charlebois, paru le 31 juillet 2025 dans La Presse.
Le mystère de la molécule a finalement été percé. Un texte de Jean-Benoît Legault de La Presse canadienne, paru le 8 juillet 2025 dans La Presse. Même si celui de la caramilk échappe toujours à la science, un autre produit bien connu du grand public vient de finalement livrer son secret, l'acétaminophène. Bien que cette molécule connue commercialement sous des noms comme Tylenol et Tempra soit en vente libre depuis des dizaines d'années, il aura fallu attendre la publication toute récente de travaux par des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem pour comprendre exactement comment elle aide à soulager la douleur. L'acétaminophène peut aider la douleur, mais ça peut traiter aussi la fièvre, a rappelé la chef du service de douleurs chroniques au CHU de Québec Université Laval, la docteure Anne-Marie Pinard. On sait que ce sont deux mécanismes qui sont probablement différents, mais si on se concentre sur la douleur, on ne savait pas très bien comment ça fonctionnait. On croyait jusqu'à tout récemment que l'acétaminophène soulageait la douleur en agissant directement sur le cerveau et la moelle épinière, plus précisément en provoquant la production d'un métabolite appelé AM404. Les chercheurs israéliens ont démontré que cette substance est produite non seulement dans le système nerveux central des gens qui prennent de l'acétaminophène, mais aussi directement dans les terminaisons nerveuses à l'origine de la douleur. AM404 bloque des canaux, appelés canaux sodiques, qui aident à transmettre le signal douloureux. En les bloquant, AM404 neutralise le signal douloureux à la source. Ça fait des années qu'on sait que ces canaux sodiques sont une cible intéressante, et en voici une preuve de plus, a dit la docteure Pinard. Ces résultats, expliquent les auteurs de l'étude, fournissent des informations sur les mécanismes d'action périphérique de l'acétaminophène et soulignent le potentiel de l'AM404 en tant qu'anesthésique local sélectif de la douleur, offrant ainsi des implications plus larges pour les stratégies de gestion de la douleur. Cette avancée, ajoute-t-il, pourrait donc déboucher sur la création de nouveaux types d'analgésiques. Comme l'AM404 cible uniquement les nerfs qui transmettent la douleur, la substance pourrait éviter l'engourdissement, la faiblesse musculaire et les effets secondaires associés aux anesthésiques locaux traditionnels, croient les auteurs de l'étude. Mais en attendant d'éventuels nouveaux médicaments pour soulager la douleur, a indiqué la docteure Pinard, les travaux des chercheurs israéliens pourraient permettre de mieux comprendre pourquoi certaines personnes répondent mieux que d'autres à des molécules comme l'acétaminophène. Prenons l'exemple de la codéine, a-t-elle dit. La codéine n'est pas un antidouleur en soi. Il faut que notre corps la transforme en morphine pour qu'elle devienne active. Et on sait qu'il y a 10 ou 15% des gens qui n'ont pas cette enzyme. Donc, quand ils prennent la codéine, c'est comme s'ils ne prenaient rien. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de similaire avec le Tylenol? D'autant plus que de multiples études ont carrément remis en question l'efficacité analgésique de l'acétaminophène, a rappelé la docteure Pinard. Quand on regarde les grandes méta-analyses, ça nous dit que ça ne fonctionne pas très bien. Mais ce n'est pas ce que je vois en clinique, a-t-elle dit. La molécule n'est bien évidemment pas miraculeuse, a-t-elle ajouté. Mais si on exige une réduction de la douleur de 50% pour juger de son efficacité, on pourra avoir tendance à la balayer du revers de la main. Mais moi, si ça enlève 20 ou 25% de la douleur dans un contexte de douleur chronique, je vais le prendre, a conclu la docteure Pinard. Tout seul, ça se peut que ça ne donne pas grand-chose. Mais si on additionne l'acétaminophène, la physiothérapie, la rééducation, c'est là qu'on réussit à avoir un effet. Les conclusions de cette étude ont été publiées par la revue scientifique PNAS. C'était « Le mystère de la molécule a finalement été percé ». Un texte de Jean-Benoît Legault de la Presse canadienne, paru le 8 juillet 2025 dans La Presse.
Seulement 4 projets de recherche en français financés en Ontario depuis 2018. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 8 août 2025 dans Le Devoir. Parmi les quelques 1600 projets de recherche financés par le ministère des Collèges et Universités de l'Ontario depuis 2018, 4 étaient en français. Les autres, tous en anglais. Un écart qui ne surprend guère les acteurs du milieu, mais qui illustre, selon l'ACFAS, le déclin documenté de la recherche en français au Canada. Le succès d'une demande repose sur son excellence scientifique, telle qu'évaluée et recommandée par un comité d'évaluation par les pairs indépendants composés d'experts scientifiques, a répondu au Devoir Bianca Giacoboni du ministère des Collèges et Universités de l'Ontario lorsqu'interrogée sur le nombre de projets francophones financés depuis 2018. Une explication que réfute catégoriquement Sophie Montreuil, directrice générale de l'ACFAS. Est-ce que ça veut dire que les projets soumis en français étaient tous inférieurs en termes de qualité? Non. On ne peut pas dire que les chercheurs francophones sont moins bons, lance-t-elle. Le problème, selon l'ACFAS, vient plutôt du fait que le système de subvention est mal adapté à la réalité des établissements francophones. Spécifiquement en Ontario, l'Ontario Research Fund, financé par le ministère des Collèges et Universités de l'Ontario, est conçu en grande partie pour des projets liés aux infrastructures de recherche ou à l'innovation appliquée. Un modèle qui favorise les grandes universités anglophones, souvent axées sur les sciences naturelles, le génie ou la santé. Les établissements francophones, eux, sont plus petits, offrent davantage de programmes en sciences humaines et sociales et disposent de moyens plus limités pour se lancer dans ces projets d'envergure. Résultat, ils entrent rarement dans les cases prévues par ce modèle. Ce n'est pas qu'ils ne font pas de recherche, c'est que leur profil institutionnel est moins compatible avec les critères actuels, résume Sophie Montreuil. Un problème pancanadien. La situation dépasse largement les frontières ontariennes, croit toutefois l'ACFAS. Les chercheurs doivent postuler directement auprès du gouvernement fédéral pour obtenir la majeure partie du financement lié à leur recherche. On parle ici autant des étudiants à la maîtrise, qui rédigent des mémoires, que des étudiants post-doctoraux. Ces derniers peuvent ensuite solliciter un financement complémentaire auprès de leur province, comme l'Ontario Research Fund. Au fédéral, bien que les chercheurs francophones représentent environ 21% de la communauté scientifique canadienne, Seulement de 5 à 12 % des demandes de subventions sont rédigées en français. La situation est documentée depuis longtemps, rappelle Mme Montreuil. Elle l'explique ainsi. Lorsqu'un chercheur francophone décide de soumettre une demande, le processus peut s'avérer décourageant. Dans plusieurs établissements, notamment en contexte minoritaire, il n'y a tout simplement pas de conseiller à la recherche capable d'évaluer un dossier en français. Soit on demande au chercheur de traduire sa demande, avec toute la surcharge que ça implique, soit il finit par laisser tomber, continue Mme Montreuil. Puis, si le projet est soumis, rien ne garantit qu'il sera lu par des pairs francophones. L'évaluation des demandes se fait par comité, qui ne sont pas toujours en mesure de comprendre un dossier rédigé en français, surtout s'il touche à des champs spécialisés. Le système actuel, il ne marche pas. Il crée des iniquités flagrantes, alors qu'on est dans un pays officiellement bilingue, s'insurge-t-elle. Soucieuse de faire entendre sa voix, l'ACFAS a adressé en juin une lettre ouverte au nouveau gouvernement de Mark Carney. Objectif : rappeler l'ampleur des inégalités et exiger des réformes. Venez pas nous dire après coup, vous auriez dû nous le dire. Non, 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 vous avez tout, affirme Mme Montreuil. La lettre, appuyée aujourd'hui par près de 1200 signataires, est restée sans réponse. Déjà qu'on n'a eu aucun accusé de réception officielle, je vous dis qu'on est proche de trouver ça passablement insultant. Au moment où ces lignes étaient écrites, les ministères interpellés n'avaient pas répondu aux demandes du Devoir. Pourquoi la recherche en français? Pour l'ACFAS, la recherche en français est bien plus qu'une revendication linguistique. Elle est essentielle pour comprendre les réalités des communautés francophones et orienter les politiques publiques. Imaginons un chercheur ou une chercheuse qui veut faire une recherche sur les difficultés relatives à l'éducation en francophonie minoritaire. S'il ne peut pas faire sa recherche, ben les besoins de cette population-là ne seront pas connus. Et les gouvernements n'en tiendront pas compte dans l'élaboration des politiques publiques. C'était seulement 4 projets de recherche en français financés en Ontario depuis 2018, un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 8 août 2025 dans Le Devoir.